Jean-Paul Jorion.
Il nous faut une économie dirigée.
Quand l'heure du confinement a sonné, je lisais justement « Comment sauver le genre humain », le dernier essai de Paul Jorion et Vincent Gurnan-Balpin. Des tas de passages faisaient écho à la crise que nous traversons. Aussi, depuis ma cuisine, pour ma radio L'An 01, ai-je appelé l'anthropologue de la finance.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Votre livre, c'est un éloge de l'économie dirigée.
Oui, c'est un coup d'État qui a eu lieu. L'économie dirige et on ne dirige plus l'économie. D'un moyen, c'est devenu une fin. Du coup, on fait passer la vie des choses bien avant la vie des gens. La vie des rétroviseurs avant celle des gens qui font les rétroviseurs. C'est la grande bascule qu'on peut situer au 19e siècle. Nous sommes passés d'une rationalité des fins, mobilisons nos ressources pour réaliser tel objectif, pour obtenir tel résultat, à une rationalité des moyens. Minimisons nos coûts et nous rebaptiserons ensuite « objectifs », ce que nous constaterons avoir obtenu. Les objectifs qu'il aurait fallu atteindre, en y mettant les moyens, ont été sinon entièrement mis entre parenthèses, du moins subordonnés au seul coût. Il n'a plus été question de ce qu'il faut impérativement faire, mais de comptes d'apothicaire précisant ce que cela coûte au centime près. Ceci est moins cher que cela, c'est donc ce qu'il nous faut. Privatisons, sous-traitons au privé. Keynes l'avait dénoncé dans un discours sur l'autosuffisance nationale. Je le cite.
Le 19e siècle a promu jusqu'à la caricature le critère que l'on appellera pour faire bref les résultats financiers, comme test permettant de déterminer si une politique doit être recommandée. Le destin personnel s'est transformé en une parodie du cauchemar d'un comptable. Au lieu d'utiliser leurs ressources techniques et matérielles désormais beaucoup plus vastes pour construire une cité idéale, les hommes du XIXe siècle construisirent des taudis. Et ils pensèrent que bâtir des taudis était la chose juste et recommandable parce que les taudis à l'aune de l'entreprise privée, cela rapporte. Alors que la cité idéale aurait été, selon eux, un acte fou d'extravagance qui aurait, dans le vocabulaire imbécile du monde financier, hypothéqué l'avenir.
Keynes se fait lyrique.
C'est la même règle de calcul financier autodestructeur qui gouverne chaque domaine de notre quotidien. Nous détruisons la beauté des campagnes parce que les splendeurs inappropriées de la nature sont sans valeur économique. Nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne versent pas de dividendes. Ou encore, nous avons jusqu'à récemment considéré qu'il s'agissait d'un devoir moral de ruiner les cultivateurs de la terre et de détruire les traditions millénaires de l'art de l'élevage si cela nous permettait de payer la miche de pain un dixième de penny meilleur marché. Il n'y avait rien que nous ne jugions notre devoir de sacrifier à ce Moloch et ce Mammon tout en un.
Et Keynes conclut.
Car aussitôt que nous nous octroyons le droit de désobéir aux critères du profit comptable, nous entamons de changer notre civilisation. C'est l'État, plutôt que l'individu, qui doit modifier ce critère. C'est la conception du ministre des Finances en tant que président directeur général d'une sorte de société cotée en bourse qui doit être rejetée.
Tout part de là. Nous avons les moyens plus que jamais. Simplement, l'État se les refuse. En ayant capitulé devant les grosses fortunes, devant la concentration de plus en plus grossière de la richesse en quelques rares mains.
Dans cette crise du coronavirus, l'État montre que, quand il veut, il peut.
Oui. Les États des pays occidentaux sont comme des lions assoupis. Là, ils se réveillent devant les citoyens, sans doute pour notre bien commun. Mais pour les questions économiques, devant les puissances d'argent, ils ont fait le choix de se retirer. Ces multinationales bénéficient de droits que les individus n'ont même pas. Aux États-Unis, par exemple, les firmes peuvent financer les campagnes électorales sans plafond, sans limite. Alors que les personnes s'est borné à 8 000 $. Ou encore l'abusus, c'est-à-dire le droit d'abuser, le droit de détruire, dans presque tous les pays. Ce droit s'est réduit par les propriétaires, sauf dans un domaine, celui des entreprises. Les actionnaires peuvent démolir les usines, les collectifs de travail, les savoir-faire presque sans restriction. Ce sont ces firmes qui décident des normes comptables, qui choisissent les soi-disant prix Nobel économie, qui dessine les politiques économiques. Et on devrait compter sur leur bienveillance, sur leur bonne volonté pour financer le grand tournant écologique.
Face à ce péril, vous demandez au contraire le réveil des États.
L'avantage de la crise du coronavirus, c'est qu'elle est subite, soudaine, c'est un fléau comme dans la Bible. Tandis que le réchauffement climatique, lui, il est en cours, mais au ralenti, à feu doux. À cause de ça, aujourd'hui, notre réponse à la menace d'extinction ne colle pas du tout. Elle est absolument inadéquate, en taille et en vigueur. Puisque Macron a parlé de guerre, il nous faut une économie de guerre. L'économie doit être dirigée, c'est-à-dire pas nationalisée, mais guidée vers des objectifs. L'impératif social et l'impératif écologique. L'économie ne peut pas être libre. Il faut l'orienter vers des fins, vers des buts, vers un plan général. En 1940, les dépenses militaires ne représentaient que 2% du budget américain, contre 42% en 1944. Cette année-là, l'impôt sur le revenu rapportait 20 fois plus qu'avant le conflit. L'impôt sur les sociétés 16 fois plus. En Angleterre, grâce au rationnement, la pauvreté, la malnutrition ont diminué. Le gouvernement a interdit la fabrication d'objets. Les pianos, les frigidaires, les tondeuses à gazon, la quincaillerie d'aluminium. Et même après la guerre, pour se reconstruire, pour redevenir puissante, la France s'est dotée d'un commissariat au plan. C'est le même effort qu'il nous faut mener pour que la transition écologique soit opérée d'urgence dans l'énergie, dans l'agriculture, dans les logements, dans les transports, pour que la vie sur Terre se poursuive. Et même pour que la vie soit meilleure pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Quelles sont nos aspirations profondes ? La sécurité, pas seulement l'intégrité physique, mais matérielle. La faim, le froid, l'assurance d'un avenir, pour nous, pour les nôtres. La justice qui est une valeur universelle. Chez les singes même déjà, alors que notre société est minée par ça, par l'injustice qui engendre du dégoût, du ressentiment, de l'écœurement. Enfin la bonne vie, comme Aristote appelait ça. Tout ce que je veux, c'est labourer mon champ, jouer après le travail avec mes enfants, aller le dimanche danser ou écouter de la musique, résumait William Reich. Des choses simples, mais pleines de sens. Nous sommes dans une économie des désirs, fabriquée en série par les industries, par les publicitaires. Nous devons tendre à une économie des besoins. L'alimentation, la santé, l'éducation, le logement, les transports, instaurer des droits à ça, avec de la gratuité, qu'on distingue le nécessaire du superflu, qu'on les fasse relever de deux régimes économiques distincts.
Et la crise aujourd'hui peut aider à ce basculement ?
Ça peut aussi faire comme en 2008. On se disait, c'est pas possible, ils ne vont pas avoir le culot de repartir comme avant. Eh bien si. Ont-ils interdit la spéculation ? Non. Mais ils n'ont même pas séparé les banques d'affaires et les banques de dépôt. Cette fois-ci, on est prévenu. D'autant que notre priorité désormais, c'est la survie du genre humain. Rien de moins. Et l'échéance n'est pas très lointaine. 30 ans, 50 ans. Alors, les amis du plaisir, comme les appelait Aristote, s'ils ne comprennent pas l'intérêt général, il faudra les arrêter avec la police, les faire venir devant le tribunal. La patience des gens a des limites.
Un article lu par Mohamed Sédiki,